Donc, je vous avais laissé la fois précédente sur la suspension des négociations le 29 octobre en raison de l'élection, des élections présidentielles américaines qui ont lieu cette année-là, le 3 novembre. Mais en parallèle, s'est ouvert à Paris la deuxième session des négociations multilatérales sur le développement économique régional, cette fois en présence des Israéliens. En dépit des avertissements de certains économistes marquant que l'économie israélienne ne peut trouver de débouchés importants au Moyen-Orient en raison du type de production concerné et de la concurrence des grands pays industrialisés sur ces marchés, l'équipe de Shimon Peres est arrivée avec de grands projets de développement, tout en sachant que la priorité est d'obtenir la fin du boycott arabe dit primaire, c'est-à-dire boycott des produits israéliens, et surtout secondaire, sociétés qui investissent avec Israël, et tertiaire, sociétés qui commercent avec Israël. Un compromis est trouvé en ce qui concerne la délégation palestinienne. Son chef est bien membre du CNP, du Conseil national palestinien, mais se trouve souffrant, ce qui permet de le remplacer par son second, lui-même non membre de l'Assemblée palestinienne. Les délégations arabes expriment immédiatement leur méfiance en ce qui concerne les ambitieuses propositions israéliennes. Il est prématuré d'envisager des mesures de normalisation économique avant tout progrès sérieux dans les bilatérales. Il en résulte que les deux jours de discussion sont surtout marqués par des propositions de participants non engagés dans le conflit qui se distribuent les secteurs à gérer et à animer. Le tourisme pour le Japon, le transport et les communications pour la France, la formation professionnelle pour les États-Unis, les banques de données du développement pour le Canada, l'énergie et les réseaux pour l'Union européenne, l'agriculture pour l'Espagne, les marchés financiers pour la Grande-Bretagne, le commerce pour l'Allemagne, les institutions, secteurs et principes pour l'Égypte. Le 3 novembre 1992, Bill Clinton remporte les élections présidentielles américaines. En Israël, la majorité de la population se félicite de la défaite de l'ami des Arabes qu'aurait été George Bush. C'est surtout la droite israélienne qui applaudit. On est ainsi dans une situation à front renversé. La gauche israélienne, Rabin le premier, était pour le candidat républicain et la droite pour le démocrate. La défaite de George Bush est suffisamment large, 43% à Bill Clinton contre 38% à George Bush et 19% à Ross Perot, pour ne pas l'attribuer à son attitude envers l'État hébreu. Mais il n'en reste pas moins que pour la plus grande partie des commentateurs, son conflit avec le gouvernement Shamir ne lui a pas été profitable. Il en résultera que pour longtemps, aucune administration américaine n'osera répéter cette épreuve de force au nom de l'intérêt national. En tout cas, en Israël, on se félicite de la défaite de l'ami des Arabes. Shamir se le déclare publiquement. Quant à Rabin, républicain de cœur, il s'inquiète du risque de voir la nouvelle administration s'occuper surtout de politique intérieure et d'économie et se désengager des affaires du Moyen-Orient. L'OLP durcit le ton et rejette l'idée d'une autonomie de 5 ans. Elle n'accepte que la constitution immédiate d'un État palestinien. Au Liban Sud, chacun teste ses capacités de dissuasion. Le 8 novembre, un raid israélien fait 4 morts dans les rangs du Hezbollah. La résistance islamique réplique le lendemain par des tirs de Katyusha, de roquettes, donc de Staline, sur la Galilée, sans faire de victimes. L'armée israélienne ayant placé en état d'alerte toutes ses agglomérations au voisinage de la frontière et a appelé la population à dormir dans des abris. L'artillerie israélienne bombarde à son tour les localités du Liban Sud. À la reprise des négociations à Washington, les deux côtés continuent à s'opposer. Les Libanais exigent un retrait unilatéral de leur territoire et les Israéliens un traité de paix ou un accord de sécurité préalable. La tension demeure forte durant plusieurs jours, mais les parties concernées cherchent à éviter l'escalade. C'est dans ce contexte que le premier gouvernement Hariri reçoit une large investiture. Le roi Hezbollah a voté contre. En dépit des assurances verbales, il existe bien une contradiction majeure entre le projet de développement économique du millionnaire libanais, même du milliardaire, on peut le dire, voulant faire du Liban un Singapour, entre guillemets, et celui du Hezbollah d'édifier le Hanoï de la lutte contre Israël. Ça va être la grande discussion au Liban à partir de cette date, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Le Liban doit-il être Singapour ou Hanoï, souvenir de la guerre du Vietnam. À Ottawa, les Israéliens refusent de siéger à la deuxième session des multilatérales sur les réfugiés, prétextant que le représentant palestinien est membre du CNP. On trouve un compromis en excluant temporairement l'intéressé de la centrale palestinienne. Les diplomates sont excellents pour ce genre de procédé. À Washington, le climat est plutôt morose dans l'ensemble des bilatérales. Avec beaucoup de difficultés, on fixe le début de la session suivante pour le 7 décembre. Peres propose publiquement le 16 novembre un contrôle conjoint israélo-palestinien des terres d'État non exploitées ou se trouvant entre les implantations israéliennes et les localités arabes dans les territoires occupés durant la période intérimaire d'autonomie. Ce serait admettre que l'autonomie a bien un contenu territorial, mais en même temps concrétiser la mainmise israélienne sur une bonne part des territoires. Faisal al-Husseini se déclare intéressé, mais la question essentielle est de savoir si un tel accord permettrait aux Palestiniens de limiter ou d'arrêter la colonisation. Dans le cas contraire, il n'a pas de sens pour eux. Déçu par le comportement des Palestiniens qui rejettent le projet d'autonomie, Rabin en fait porter la responsabilité sur Arafat, seul obstacle à la conclusion d'un accord. Il ne veut pas comprendre que les représentants des territoires occupés sont beaucoup plus vigilants que les Palestiniens de l'extérieur à la nature d'un accord qui risque de conduire à la pérennisation de l'occupation. Pourtant, le Premier ministre n'exclut pas de négocier un jour avec l'OLP et dans l'immédiat demande l'abrogation de la loi interdisant tout contact avec les représentants de la centrale palestinienne. Le climat général est contrasté. Durant les trois dernières semaines de novembre 1992, 14 Palestiniens ont été tués par l'armée dans les territoires occupés, ce qui porte à 46 le nombre de tués palestiniens depuis la formation du gouvernement travailliste à la mi-juillet. En même temps, on ne proteste plus devant les contacts répétés entre la délégation palestinienne et les représentants de l'OLP, et on accepte même d'utiliser le mot Cisjordanie plutôt que le mot Judée-Samarie. La loi d'abrogation est adoptée au début décembre en première lecture à la Knesset. Elle permet de faciliter les canaux parallèles, Trick 2, ou Second Tract en anglais, plutôt exactement, qui se sont récemment multipliés. Les plus publics sont des initiatives universitaires occidentales qui étaient déjà autorisées par la loi abrogée dans le contexte de conférences académiques légitimes, c'est-à-dire donc des conférences académiques sur la situation au Moyen-Orient où, comme de par hasard, il y aurait des représentants palestiniens et des représentants israéliens qui se trouveraient là. Elles permettent des échanges d'idées et une meilleure connaissance des positions des deux parties. Des organisations non gouvernementales de divers pays favorisent ce type de rencontres. La direction palestinienne et le gouvernement israélien sont régulièrement informés du contenu de ces entretiens, tout en ayant la possibilité de les désavouer si nécessaire. Autre canal second, des parlementaires arabes israéliens se rendent aussi à Tunis et font le va-et-vient entre la direction de l'OLP et le gouvernement israélien. Parmi les idées échangées revient régulièrement celle d'une évacuation israélienne de la bande de Gaza. Peres se montre publiquement favorable à cette idée, puis fait machine arrière, invoquant le risque de chaos, voire de libanisation, qui pourrait se produire en cas de retrait israélien unilatéral. C'est dans ce cadre qu'une des voies parallèles destinées à un grand avenir commence à fonctionner. Au départ, c'est l'initiative de Terje Larsen, directeur de l'Institut norvégien pour les sciences sociales appliquées, le FAFO. Le FAFO est une ONG proche du ministère des Affaires étrangères norvégien. Larsen développe depuis longtemps un fort intérêt pour les affaires moyen-orientales et établit des contacts avec des progressistes israéliens et palestiniens. En mai 1992, Larsen a rencontré Yossi Beilin à Tel Aviv. Les deux hommes conviennent de lancer une voie parallèle, second track, entre Palestiniens et Israéliens. En septembre, le ministère norvégien des Affaires étrangères apporte son soutien à l'initiative. On pense alors à Faisal el-Husseini pour représenter les Palestiniens, mais une ouverture se révèle du côté de Tunis. Mahmoud Abbas, Abou Mazen, a cherché à établir une liaison avec le gouvernement israélien par le biais du ministère égyptien des Affaires étrangères, mais Rabin a refusé. Beilin désigne deux universitaires israéliens intellectuels de gauche pour animer la partie israélienne, Yair Hirschfeld et Ron Pindak. On peut à tout moment les désavouer. Ils font partie des interlocuteurs habituels israéliens, des personnalités des territoires occupés. Le 3 décembre se tient à Londres une réunion du comité de direction des négociations multilatérales. Ahmed Koryeh, dit Abou Rala, qui est chargé des investissements de l'ONP, y est au titre des discussions sur le développement économique. Achraoui et Saini lui demandent de rencontrer Hirschfeld, qu'ils connaissent bien. Le Palestinien demande l'autorisation préalable de Tunis pour une entrevue avec celui qu'il considère comme un représentant du gouvernement israélien. La discussion porte sur le dossier politique. Abou Rala est déjà un familier des diplomates norvégiens. Il est favorablement impressionné par l'offre de tenir des conversations secrètement en Norvège. Il fait son rapport à Arafat et à Abou Mazen. Ce dernier l'autorise à continuer le dialogue. Quelques jours après, Larsen se rend à Tunis, où il confirme à Abou Ala l'invitation de se rendre à Norvège. Il obtient une entrevue avec Arafat et se fait photographier avec lui. Le chef de l'OLP confirme son approbation pour l'initiative. De là, Larsen se rend en Israël et se sert de la photographie avec Arafat pour marquer qu'il a bien un engagement avec les Palestiniens. Mais tout ça est accompagné d'une paralysie des négociations officielles. La période de transition entre les deux administrations américaines ne facilite pas le progrès des négociations en dépit du fait que Clinton se soit engagé à poursuivre la voie ouverte par son prédécesseur. Une huitième session est prévue à Washington à partir du 7 décembre et une neuvième un mois après. En dépit du refus plusieurs fois exprimé de Assad d'organiser un sommet avec Assad, avec Rabin, et fort des progrès enregistrés du côté de la Jordanie, la diplomatie israélienne semble vouloir isoler les Palestiniens qui demandent une participation américaine pour débloquer l'impasse. Les Israéliens annoncent qu'ils ne feront pas de nouvelles propositions lors de cette session et insistent sur l'atmosphère positive des réunions avec les autres délégations arabes. Ils parlent de la possibilité d'arriver rapidement à la rédaction d'un document commun. Rabin évoque sa certitude que l'on arrivera à un accord de paix en 1993, sinon avec toutes les délégations arabes, au moins avec certaines d'entre elles. Le jour même de la reprise des négociations, trois soldats israéliens sont tués dans la bande de Gaza dans un attentat revendiqué par le Hamas. Le territoire est immédiatement mis sous couvre-feu. Le 9 décembre, pour célébrer le 5e anniversaire de l'Intifada, les délégations arabes suspendent pendant une journée les pourparlers de Washington. Dans les territoires, la grève générale est une réussite. Deux jeunes Palestiniens sont tués par l'armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie. La tension reste forte. Les 11 et 12 décembre, quatre Palestiniens et un Israélien sont tués. Le 13 décembre, un commando du Hamas enlève un garde-frontière israélien en plein territoire israélien et demande contre sa libération la libération du cheikh Ahmad Yassin, chef du Hamas, fondateur du Hamas, condamné à perpétuité par les Israéliens. Un autre soldat israélien est tué à Hébron. Rabin se déclare prêt à discuter avec les ravisseurs si on lui fournit la preuve que l'otage est encore vivant. L'armée israélienne ratisse le territoire à la recherche du lieu de détention. Le 15 décembre, on retrouve le corps de l'otage qui a été assassiné à coups de couteau. C'est que depuis un certain temps, l'intifada a cessé d'être un mouvement de non-violence et de désobéissance passive. On est en train de basculer vers une insurrection armée. Les mouvements paramilitaires ont pris le dessus, comme les faucons du Fatah et les panthères noires d'obédience Fatah. Le groupe de l'aigle rouge du FPLP, les combattants de l'étoile rouge du FDLP et les brigades Azadin al-Qassam du Hamas. Il existe d'autres groupuscules de même nature. Ils recrutent largement dans la jeunesse déscolarisée par les mesures de fermeture d'école ordonnées par les autorités d'occupation depuis le début de l'intifada. Ces militants de base refusent de suivre les consignes de modération données par les personnalités palestiniennes comme Faisal al-Husseini et l'OLP à Tunis n'a pas les moyens d'imposer sa discipline. La participation populaire au soulèvement diminue et le passage à la lutte armée est autant souhaité que subi. Avec l'interruption des fonds venus du Fatah, ces milices prélèvent sur la population une sorte d'impôt révolutionnaire. Les commerçants et les hommes d'affaires en sont les premières victimes. La militarisation s'en prend particulièrement aux collaborateurs d'Israël. Cette catégorie comprend non seulement les informateurs des services de renseignement israéliens, mais tous ceux qui contribuent à titre divers à l'administration de l'occupation. Toute déviance morale est pourchassée car susceptible d'être exploitée par les occupants. Violation de la morale familiale, prostitution, relations extramaritales, trafic et consommation de drogue, vol, cabriolage et autres délits. Les paramilitaires, islamistes et non-islamistes, imposent ainsi un ordre moral qui, au nom de l'honneur, impose un contrôle strict sur la société. Dans la bande de Gaza, les femmes sont ainsi forcées à porter le voile, même les chrétiennes. Les châtiments sont brutaux et sommaires. Le but est d'assurer la sécurité des combattants en rendant à la société palestinienne impénétrable à l'infiltration israélienne. On peut aussi y reconnaître une forme de revanche populaire sur les notables, la bourgeoisie et les autorités traditionnelles qui subissent cette situation. Les assassinats de collaborateurs et assimilés deviennent plus nombreux. On en a comptabilisé 238 pour l'année 1992, dont 199 pour la bande de Gaza. Ces indications ne sont que des ordres de grandeur. Bien entendu, certaines de ces affaires sont aussi des règlements de compte liés à des rivalités de personnes et de familles, et certains individus trouvent l'occasion de passer à l'extrême violence. Mais l'armée israélienne arme aussi ses collaborateurs qui accompagnent les soldats dans les différentes actions de répression, y compris les assassinats déciblés. Paradoxalement, la moralisation forcée de la société accompagne cet effondrement de la loi et l'ordre, en particulier dans la bande de Gaza. Rabin est décidé à porter un grand coup pour établir la dissuasion israélienne. 1500 militants ou sympathisants présumés du Hamas sont arrêtés. Il s'agit essentiellement de politiques et de gens travaillant dans le secteur caritatif. Face à la militarisation de l'intifada, le premier ministre israélien revient à la politique de la force. Il avait fait sa campagne électorale sur le thème de la paix et de la sécurité. Il était Monsieur Sécurité. Le 16 décembre, en l'absence de Peres en déplacement à l'étranger, le gouvernement israélien vote à l'unanimité la déportation de 417 activistes au Liban, alors que la totalité des personnes déportées depuis le début de l'intifada se monte à 65. C'est reproduire le pire cauchemar des Palestiniens, l'expulsion, et celui des Libanais, l'installation des Palestiniens. C'est l'idée des militaires et des services de renseignement. La Cour suprême israélienne réunie en urgence approuve cette mesure d'exception contraire aux conventions de Genève. La mesure est présentée par Rabin comme le moyen de préserver le processus de paix. L'expulsion est définie comme temporaire pour une période de 2 ans. Immédiatement, l'armée israélienne ferme l'accès à la zone limitrophe, ferme l'accès à la zone limitrophe de la zone de sécurité contrôlée par les Israéliens. Le lendemain 17 septembre, les 417 déportés se trouvent bloqués dans un no man's land entre les positions de l'armée du Liban Sud et celles de l'armée libanaise. Parmi eux, le docteur Mahmoud El-Zahar et Abdelaziz Rantissi, deux proches de Sher Yassin. Bien évidemment, la presse internationale accourt et l'affaire fait grand bruit. Le Liban saisit immédiatement le Conseil de sécurité. À Washington, les partis arabes boycottent en protestation la dernière journée de la 8e session des bilatérales. L'administration Bush finissante est dans l'embarras et tente de sauver le processus de paix. De plus, la position américaine a toujours été de considérer les déportations comme illégales. Bill Clinton, qui passe pour être sentimentalement plus proche d'Israël, se livre à un commentaire soigneusement équilibré. Il craint que les bannissements n'aillent trop loin et menace les conversations de paix et exhorte Israël à trouver un autre moyen pour répliquer aux attaques du Hamas. Mais il dit comprendre la frustration, la colère et l'indignation éprouvées en Israël après le meurtre du garde-frontière. Rabin est surpris par l'émotion internationale et s'en prend au Liban, jugé responsable de la crise, pour avoir refusé l'accès des déportés qui s'installent dans un camp de tente rapidement improvisé, par le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Les conditions de vie sont difficiles. On est à 1000 mètres d'altitude et la température voisine le 0 degré. Les nouveaux réfugiés, dont une bonne part sont des diplômés de l'enseignement supérieur, savent s'organiser et s'imposer une forte discipline. Un nouveau camp de réfugiés palestiniens est en voie de formation. Le premier ministre israélien se déclare persuadé que le processus de paix reprendra en février, une fois l'administration Clinton entrée en fonction. Mais dans les territoires, c'est l'union sacrée entre les membres du Hamas et des partisans de l'OLP. Pour le chef d'état-major de l'armée israélienne, Ehud Barak, les expulsions vont provoquer dans un premier temps une vague de violence contre l'État hébreu, mais favoriseront la sécurité à long terme. La résolution 799 du 18 décembre 1992 du Conseil de sécurité rappelle les résolutions précédentes sur le sujet, condamne fermement ces expulsions qui contreviennent à la 4e Convention de Genève et exige qu'Israël, puissance occupante, garantisse le retour immédiat et en toute sécurité dans les territoires occupés de tous ceux qui ont été expulsés. 6 Palestiniens sont tués le 19 décembre lors des manifestations de protestation dans la bande de Gaza. Fort de l'approbation massive de l'opinion publique israélienne, le gouvernement Rabin rejette l'application de la résolution 799. Israël est le seul juge des mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. La Cour suprême israélienne a virtuellement entériné l'exil des 415 expulsés en rejetant les recours déposés en faveur de leur retour immédiat. De nouveaux recours sont déposés. Les délégations arabes suspendent leur participation au bilatéral et au multilatéral, tant que la question des expulsés n'a pas trouvé de solution. Le barbu s'éreint ici. Les autorités libanaises restent intraitables, ne laissant passer qu'une aide d'urgence. Si elles permettent à quelques malades et blessés d'être accueillis dans les hôpitaux libanais, elles refusent le passage de l'aide par les territoires libanais. L'épreuve de force se poursuit sur la question de savoir de quel côté parviendra l'aide, Israël ou le Liban, ce qui définirait juridiquement l'appartenance du lieu où se trouvent les expulsés, zone d'occupation israélienne ou territoire sous contrôle de l'État libanais. Chaque partie accuse l'autre d'agir avec cynisme. On est là à l'intersection entre l'humanitaire et le politique. Les villageois du secteur fournissent une aide clandestine aux expulsés, ce qui en vaut d'être bombardés par l'armée israélienne. Les tempêtes de l'hiver rendent très difficiles les conditions de vie dans le campement improvisé de Marj ez-Zuhour, devenu un symbole de la résistance palestinienne. Abdelaziz al-Rantissi devient l'organisateur et le porte-parole des déportés, ce qui n'interdit pas la divergence entre les militants du Hamas et ceux du djihad islamique. Le gouvernement israélien tente de se sortir de ce mauvais pas en proposant le retour de 10 expulsés par erreur et le transfert des autres vers un pays tiers. L'OLP et les intéressés rejettent la proposition de transfert qui, de toute façon, implique l'acceptation d'un pays concerné. Il en est de même pour une proposition française de confier le sort des expulsés à la FINUL. Puis Rabin propose le retour des réfugiés après l'arrêt de l'intifada pour une période de 6 ou 9 mois. Mais on va plutôt dans une radicalisation dans les territoires. Le 3 janvier 1993, un agent de Shin Bet est assassiné lors d'un entretien clandestin avec un informateur. Immédiatement, la police israélienne se lance dans une chasse à l'homme. L'attentat aurait été commis par des membres du Hamas. Le mouvement islamiste appelle à faire du mois de janvier le mois de la confrontation. Plus de Palestiniens sont tués par l'armée israélienne lors des 6 premiers mois du gouvernement Rabin que dans les 6 derniers mois du gouvernement Shamir. Les attaques se multiplient contre les soldats israéliens dans la bande de Gaza. L'intifada est bien en train de se transformer en lutte armée. Et c'est dans ce contexte que l'administration Clinton prend ses fonctions. Boutros Ghali, devenu secrétaire général de l'ONU, pousse à l'adoption des sanctions contre Israël en termes diplomatiques, a recommandé que le Conseil de sécurité prenne des mesures pour faire respecter la résolution 799. Rabin rejette toute action avant que les recours ne soient épuisés devant les tribunaux israéliens. L'administration Bush, finissante, n'a aucun pouvoir. Le 21 janvier, l'administration Clinton entre en fonction. Warren Christopher est secrétaire d'État, Anthony Leak, conseiller à la sécurité nationale, Madeleine Albright, ambassadeur à l'ONU avec rang de membre du cabinet. Christopher, juriste de formation, a été l'adjoint de Cyrus Vance, Deputy Secretary of State, sous Carter. Donc Cyrus Vance était secrétaire d'État de Carter, c'est le père du procureur de New York, pour ceux qui voient. Mais n'a traité du Moyen-Orient que pour au sujet des affaires iraniennes. Anthony Leak est un ancien diplomate qui a servi au Vietnam. En désaccord avec Kissinger, il a démissionné pour se lancer dans une double carrière universitaire et politique. Albright est une spécialiste de l'Europe de l'Est et de la Russie. Universitaire, elle était l'un des experts du Parti démocrate en politique étrangère. Clinton lui-même n'a qu'une connaissance superficielle des affaires étrangères, mais a une énorme capacité de lecture et d'absorption des dossiers. Le 23 janvier, Clinton téléphone à Rabin pour lui dire qu'il a obtenu de retarder les débats à l'ONU à l'attente des décisions de la Cour suprême israélienne. Le même jour, 17 déportés, 13 par erreur et 4 pour raison de santé, sont rapatriés par hélicoptère prêté par la Grande-Bretagne au CICR. Une partie d'entre eux devra purger une peine de prison en Israël. Le Cour suprême israélienne reconnaît une nouvelle fois la légitimité des expulsions le 28 janvier. Elles sont conformes aux lois d'urgence adoptées lors du mandat britannique et conservées par la législation israélienne. Christopher adjure alors Rabin de trouver une solution qui évite aux États-Unis d'avoir recours au veto au Conseil de sécurité. Rabin propose le retour immédiat d'une centaine de déportés, le reste étant autorisé à revenir par fractions successives jusqu'à la fin de l'année 93, c'est-à-dire un an avant la fin de la période des 2 ans. En même temps, Rabin exerce un chantage aux négociations. Toute condamnation du Conseil de sécurité ayant des retombées concrètes provoquerait la liquidation des négociations de paix, car les partis arabes sauraient alors que l'on peut imposer des choses à Israël par l'intermédiaire du Conseil de sécurité. Il n'y aura alors plus de chances de parvenir à la paix. Quant à la proposition israélienne et rendue publique, elle est immédiatement rejetée par Antissi, qui s'en tient à l'application intégrale de la résolution 799. Christopher salue ce pas dans la bonne direction, ce compromis allant dans le sens de la résolution du Conseil de sécurité. Le 12 février, le Conseil de sécurité, par une simple déclaration, prend note de la décision israélienne et demande à l'État hébreu d'assurer le rapatriement de 300 autres déportés aussi vite que possible. En janvier 1993, l'aviation américaine a aussi lancé plusieurs raids contre des installations irakiennes pour faire respecter les résolutions de l'ONU. La presse et l'opinion publique arabe soulignent les deux poids, deux mesures en ce qui concerne l'Irak et Israël et le respect des résolutions du Conseil de sécurité. Le 19 janvier, le Parlement israélien abroge par 39 voix contre 20 la levée de l'interdit pour les citoyens israéliens de rencontrer des membres de l'OLP. Mais l'ONP n'est toujours pas reconnue comme interlocuteur. Les négociations ne concernent que les habitants des territoires. Les 20 et 22 janvier, du 20 au 22 janvier 1993, se tient à 100 km d'Oslo le premier entretien de la filière norvégienne. Officiellement, il s'agit toujours d'un séminaire universitaire sur la situation dans les territoires occupés. La délégation palestinienne est composée d'Abu Ala, Meir el-Kourd et Hassan Rasfour, trois fonctionnaires de rang moyen de l'ONP, et la délégation israélienne d'Hirschfeld, de Pundak et de Pundak. Beilin leur a donné comme instruction de sonder les intentions des Palestiniens. Le rôle des Norvégiens est essentiel. Ils assurent le secret absolu de ces rencontres et se définissent comme des facilitateurs. Tout se fait en anglais entre les cinq interlocuteurs. Pour éviter des récriminations, il convient de ne pas parler du passé et de se consacrer à la situation présente. Les Palestiniens exposent leurs principes généraux, les mêmes que ceux présentés à Washington. Les idées nouvelles sont l'évacuation de la bande de Gaza, la rédaction par les deux parties d'une déclaration de principe et des mesures favorisant le développement économique des territoires avec en particulier un, entre guillemets, plan Marshall international en faveur de la bande de Gaza. Le 9 février, à la veille de la reprise des discussions en Norvège, Peres informe Rabin de l'existence de cette filière. Le Premier ministre est en fait déjà au courant grâce aux services de renseignement israéliens qui ont infiltré l'entourage d'Arafat. Il faut rappeler, pour ceux qui se rappellent, l'année dernière, il y avait eu un assassinat à Paris d'un membre de l'ONP et les services français avaient été convaincus que l'information du passage du membre de l'ONP avait été donnée par l'existence d'une taupe israélienne dans l'entourage d'Arafat. Et donc, les services secrets français ont prévenu Arafat qu'il y avait une taupe dont son entourage. Mais à ce moment-là, la taupe n'a pas encore... Enfin, il y en avait deux, en fait. Les deux taupes n'ont pas encore été détectées par le contre-espionnage palestinien. Rabin demande que le deuxième entretien soit retardé après les premières initiatives américaines, mais Peres passe outre. Il a déjà donné son accord aux deux émissaires israéliens que l'on peut toujours désavouer si nécessaire. Ils sont d'ailleurs déjà partis pour la Suède pour la deuxième session, qui commence le 11 février. Les Palestiniens s'interrogent toujours sur la représentativité de leurs interlocuteurs et décident de les tester en commençant à aborder les aspects pratiques du retrait de Gaza. Mais les deux Israéliens s'en tiennent toujours à des généralités sur le développement économique et l'amélioration des conditions de vie dans les territoires occupés. Ça a toujours été le problème essentiel des canaux parallèles, puisque dans les canaux parallèles, vous avez toujours eu, du côté palestinien, des représentants de l'ONP à différents niveaux, tandis que du côté israélien, c'était toujours des gens représentant qu'eux-mêmes et non pas l'État d'Israël. Donc, pour les Palestiniens, la question était toujours de savoir si réellement leurs interlocuteurs représentaient qu'eux-mêmes ou s'ils étaient mandatés par le gouvernement. Donc, dans la filière d'Oslo, il y a cette étape inévitable. La discussion se fait plus âpre sur la tenue des élections palestiniennes, la composition et les compétences de la future autorité. On commence la rédaction de la déclaration de principe. Les Norvégiens ont informé les Américains de l'existence de leur filière, mais qui apparaît toujours à ce moment-là comme un exercice purement universitaire. La nouvelle administration américaine apparaît comme inexpérimentée en ce qui concerne le Moyen-Orient. Et dès les premiers jours, elle a dû affronter les urgences en Palestine et en Irak. Les responsables décident de maintenir l'essentiel de l'équipe de Baker en raison de sa connaissance des dossiers. Un juif d'origine australienne, Martin Indyk, prend la succession de Richard Haass au Conseil de sécurité nationale. Indyk a dirigé le think tank The Washington Institute for Near East Policy, très favorable à Israël. Il se présente comme un spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient et est partisan de donner la priorité au dossier syrien. Dennis Ross est très engagé dans l'administration précédente, et conservé pour quelques mois. Ce champion de la lutte bureaucratique réussit à s'imposer et deviendra au bout de quelques temps le négociateur en chef de l'équipe américaine. De ce fait, le processus de paix est du domaine du département d'État dans la continuité de la politique de l'administration précédente. Mais grâce à la présence de Rabin et de Peres sans la tension qui avait existé entre l'administration Bush et le gouvernement Shamir. La ligne stratégique pour le Moyen-Orient, pour l'administration Clinton, est le dual containment, le double endiguement de l'Irak et de l'Iran, et la promotion du processus de paix israélo-arabe. Alors, pour rappeler, durant la guerre froide, la première phase de la guerre froide, les Américains avaient fait un containment de l'expansion soviétique en créant l'OTAN, par exemple, et puis ensuite un certain nombre de pactes militaires. Donc l'administration Clinton a adopté la doctrine de double containment, c'est-à-dire à la fois de contenir l'Iran et l'Irak. Donc en français, on dit le double endiguement. Mais on perd l'usage du français dans le vocabulaire des relations internationales. Il s'agit de soutenir la politique audacieuse de Rabin et il n'est évidemment pas question d'exercer des pressions sur Israël. Warren Christopher a réservé au Moyen-Orient son premier voyage à l'étranger qui commence le 17 février 1993. Il se rend d'abord en Égypte, Jordanie, Syrie, Arabie Saoudite, Koweït et Liban avant d'arriver en Israël. Il tire de ses entretiens avec les chefs d'État arabes qu'ils sont résignés à accepter le compromis de Rabin et fort désireux de reprendre le processus de paix. Assad lui marque que contre un retrait complet du Golan, il est prêt à une paix complète et à des arrangements de sécurité. C'est ce qu'il communique à Rabin le 23 février. Rabin est particulièrement intéressé par le volet syrien. Il explique à Christopher que Assad est un leader capable de prendre des décisions et que la paix avec la Syrie réduirait considérablement le risque de guerre, gain stratégique considérable pour Israël. Mais Rabin se refuse à définir l'ampleur du retrait israélien qu'il conditionne à la nature de la paix et à la nécessité de séparer le règlement avec la Syrie de celui avec les Palestiniens. Il envisage une paix séparée avec la Syrie qui rendrait les Palestiniens plus accommodants aux demandes israéliennes. Les seuls à se montrer fermes sont les Palestiniens qui demandent toujours le retour immédiat des expulsés et relancent la question de la participation à la négociation de Palestiniens de Jérusalem. Après un entretien pour la forme avec son homologue russe, Christopher appelle à la reprise des négociations pour le mois d'avril. Christopher revient particulièrement optimiste de sa tournée. Il explique à Clinton qu'il y a là une occasion extraordinaire d'arriver à une paix au Moyen-Orient. Elle le pousse à y engager son prestige et son influence. Colin Powell, consulté par Clinton en tant que chef d'état-major, considère qu'aucun militaire n'accepterait de se retirer du Golan et que les États-Unis devraient proposer le stationnement permanent d'une brigade américaine de 4000 hommes sur le Golan pour marquer le sérieux de l'engagement américain dans le règlement. Les responsables américains jugent que si le domino syrien tombe, tous les autres dominos arabes suivraient, Liban, Jordanie, Palestiniens. La priorité est donnée à la Syrie, la dimension palestinienne est pratiquement négligée. La déportation des 400 Palestiniens, loin de provoquer le calme, attise la tension. Le Hamas bénéficie de son image forte de champion de la résistance, tandis que le Fatah veut faire quelque chose pour montrer qu'il n'a pas abandonné la lutte armée. Comme les actes commis sont revendiqués par différents mouvements, il est difficile de séparer les actions individuelles de celles planifiées par une organisation lors d'une véritable reprise de la guerre des couteaux qui couvre la plus grande partie du mois de mars. Le 26 février, un officier des gardes-frontières est poignardé à Jérusalem par un jeune Palestinien de Cisjordanie. Le 1er mars, deux Israéliens sont tués et sept autres blessés à coups de couteau dans une rue de Tel Aviv. Selon la police, il s'agit de l'acte d'un déséquilibré venu de la bande de Gaza. Le gouvernement israélien décrète le bouclage temporaire de la bande de Gaza. Le 2 mars, un Israélien égaré dans un camp palestinien de la bande de Gaza est assassiné. Le 8 mars, à la levée du bouclage, un colon israélien de la bande de Gaza est tué à coups de couteau par un de ses employés. Deux ouvriers palestiniens sont tués en représailles par les colons. Le 10 mars, deux Israéliens sont blessés par des originaires de la bande de Gaza. Le 12, une Israélienne est retrouvée morte près de Gaza, tandis que l'on cherche un soldat israélien porté disparu. On découvre ensuite son cadavre. Le 15 mars, un touriste est blessé en Israël et en Cisjordanie. Deux colons israéliens sont tués, un troisième blessé, après avoir été heurté par une voiture à plaque d'immatriculation palestinienne, dont le chauffeur a pris la fuite. Le débat israélien sur le sort de la bande de Gaza est relancé. Pour la majorité de l'opinion publique, Gaza est un chancre, un cancer. Le maintien de l'occupation de ce territoire sans grande valeur stratégique coûte cher. La protection des 3000 colons entraîne des dépenses considérables sans aucun gain politique conséquent. Mais une évacuation unilatérale risquerait de transformer ce territoire en base terroriste menaçant toutes les agglomérations du sud d'Israël. Rabin évoque régulièrement une solution politique avec les Palestiniens sans vraiment en esquisser les contours. La population israélienne est très nerveuse face à cette vague d'attentats. Les forces de sécurité israéliennes sont mises en état d'alerte. On annonce le recrutement de 2000 policiers supplémentaires et on demande aux gens de conserver leur sang-froid. Par ailleurs, le gouvernement israélien est prêt à aider financièrement tous les chômeurs juifs qui accepteraient de remplacer les journaliers arabes à Gaza qui viennent d'être collectivement remplacés. Le 10 mars, le département d'État a invité la délégation palestinienne à reprendre des négociations le 20 avril à Washington. Les Palestiniens refusent tant que la question des déportés n'est pas réglée. Ils exigent que les Israéliens renoncent définitivement à ce genre de mesures. Les autres parties arabes décident de se concerter préalablement avant de donner une réponse. Le 11 mars, Rabin part pour les États-Unis pour une visite de 9 jours. Une relation forte s'installe immédiatement entre lui et Clinton, en particulier dans leur entretien à tête-à-tête. Le Premier ministre explique qu'il a le mandat de son peuple pour prendre les risques nécessaires pour la paix. Le président s'engage à tout faire pour diminuer ces risques. En ce qui concerne le dossier syrien, Rabin déclare comprendre qu'Assad ne se satisferait que d'un retrait complet et qu'il lui faut un engagement de sa part en faveur de la paix analogue à celui de Sadat. Le président américain lui fait la proposition du stationnement permanent d'une brigade américaine sur le Golan, ce qui impressionne son interlocuteur. Ce dernier n'exclut pas la possibilité d'un retrait complet du Golan si d'autres conditions sont remplies. Mais il faudrait alors consulter les Israéliens par référendum puisqu'une telle option n'avait pas été évoquée durant la campagne électorale. Bien évidemment, il s'agit là d'une hypothèse de travail et non d'un engagement. Dans son entretien avec Christopher, Rabin évoque la relance de la négociation avec les Palestiniens. Il suggère que les États-Unis proposent que Faisal al-Husseini soit reconnu comme chef de la délégation palestinienne. Puisqu'il a sa propre légitimité en tant que chef des Palestiniens à Jérusalem, il serait capable de rejeter l'autorité d'Arafat et de passer un accord d'autonomie avec les Israéliens. Le Premier ministre ne peut pas avancer lui-même une telle proposition en raison de l'opposition du Likoud à tout ce qui pourrait apparaître modifier le statut de Jérusalem. Comme bien souvent sous l'administration Clinton, une proposition américaine est une suggestion israélienne que l'on fait passer par Washington pour la rendre plus acceptable aux uns comme aux autres. Dans son analyse qu'il développe devant les diplomates américains, Rabin se montre plutôt négatif en ce qui concerne la délégation palestinienne. Elle est incapable de passer outre aux instructions d'Arafat. Or, ce dernier s'en tiendra toujours à un État palestinien impossible à faire accepter aux Israéliens. Le leader palestinien s'opposera toujours à tout accord intérimaire qui donnera le pouvoir aux gens de l'intérieur. Les États-Unis trouvent maintenant que la solution proposée par Rabin à la question des expulsés est la bonne. Ils y voient même un premier succès diplomatique de l'administration Clinton. La nouvelle lune de miel entre Israël et les États-Unis se traduit par une élévation du niveau de leur coopération stratégique. Dans les territoires occupés, la violence ne fait que s'accentuer. Plusieurs Palestiniens sont tués lors des manifestations, portant à 57 le nombre de morts palestiniens depuis le 17 décembre, date des expulsions massives. Le 17 mars, Rabin décide de rentrer de façon anticipée en Israël. Des mesures strictes sont prises avec un nouveau bouclage des territoires occupés. Les réservistes n'y seront plus envoyés afin de ne pas porter atteinte au moral de la nation. Les chômeurs israéliens sont priés de remplacer les travailleurs palestiniens. Néanmoins, le week-end du 20-21 mars est particulièrement sanglant. 4 Palestiniens et 2 soldats israéliens sont tués, tandis que 4 lycéens israéliens et le directeur d'un lycée de Jérusalem-Ouest sont blessés à coups de couteau le 22 mars. Violemment critiqué par la droite qui appelle à sa démission, Rabin marque sa détermination. Je cite, « Le terrorisme n'entamera pas notre volonté d'aboutir à un accord avec les Palestiniens et les États arabes. Je reste convaincu que des progrès substantiels dans cette voie seront réalisés en 1993 et que la sécurité du public s'améliorera. » Loin, fin de citation, « Loin de cette guerre des couteaux a lieu le 20-21 mars la troisième rencontre en Norvège. La principale préoccupation des représentants palestiniens est de savoir si ce canal de communication a bien le soutien du gouvernement israélien. Dans ce cas, il faudrait mettre fin aux autres voies de communication qui fonctionnent en parallèle. La partie israélienne fait savoir que l'offre de paix a bien été reçue en Israël et que la priorité est donnée au volet palestinien sur le volet syrien. On aborde la question de l'évacuation de la bande de Gaza et de la participation de représentants de l'OLP aux élections palestiniennes. En ce qui concerne Jérusalem, la partie israélienne est soucieuse que le nom même de la ville sainte soit mentionné, mais accepte que des améliorations soient apportées au statut des Arabes de la ville sainte, comme la poursuite des activités d'Orient House. De toute façon, il faudra bien négocier le statut final. On continue de travailler par amendements successifs à la déclaration de principe. Par rapport aux discussions de Washington, les Palestiniens ont cédé sur des points essentiels. Ils acceptent un document qui ne leur fournit pas une juridiction complète sur la terre, qui exclut Jérusalem-Est de l'autonomie et qui ne donne pas de garantie à l'obtention d'un État. L'équipe norvégienne informe les Américains du progrès des discussions, mais Christopher ne se préoccupe que des perspectives prometteuses d'un accord avec la Syrie. Et les négociateurs américains sont persuadés que jamais Israël n'entamera un dialogue public avec l'OLP et Arafat. Pourtant, ce dernier continue à donner des gages. Il condamne ainsi publiquement le soutien que l'Iran apporte aux extrémistes palestiniens. Il explique que l'indépendance de décision palestinienne ne s'exerce pas seulement par rapport aux frères arabes, mais aussi face aux ingérences non-arabes. L'Iran joue un rôle négatif sur la scène palestinienne depuis la première guerre du Golfe. Menacer les États arabes du Golfe, c'est aussi menacer la Palestine. En Israël, le 24 mars, le vieux faucon devenu colombe, Ezer Weizmann, élu président de l'État juif, succédant à Haïm Herzog. Ce non-conformiste de 79 ans est décidé à conserver son franc-parler. C'est un partisan déclaré de l'ouverture d'un dialogue avec l'ONP. Après de nouvelles violences, la bande de Gaza est de nouveau fermée le 29 mars. Le Hamas semble être passé à une véritable guérilla permanente contre les troupes d'occupation. L'assassinat de 2 policiers près de Tel Aviv le 30 mars porte à 15 le nombre de tués israéliens au mois de mars, contre 30 du côté palestinien. Le bouclage des territoires divise l'espace en 4 ghettos, isolés les uns des autres. Le nord de la Cisjordanie, région de Jenin, le sud, région de Hébron, Jérusalem et la bande de Gaza. L'interdiction de se rendre à Jérusalem-Est interdit le passage entre le nord et le sud de la Cisjordanie. Dans tous ces secteurs, on multiplie les opérations de ratissage. Le nombre de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes s'élève à plus de 12 000. Rabin, au nom des impératifs de la lutte antiterroriste, s'est lancé dans une logique de séparation des populations. Son but proclamé est d'arriver à se passer de la main-d'œuvre palestinienne malgré la répugnance des Israéliens à accepter des tâches sous-qualifiées et sous-payées. On évoque de mille plans mirifiques de développement économique des territoires alors que la paralysie des communications rend vain tout projet de cette nature. Rabin fait appel au temps glorieux des pionniers de l'État d'Israël pour critiquer l'indépendance envers la main-d'œuvre arabe, 7 avril 1993. Je cite. Il est inconcevable que sur 120 000 travailleurs du bâtiment employés en Israël, 70 000 soient des habitants des territoires. Dans le passé, la construction et l'agriculture constituaient les symboles de l'enracinement du peuple juif en Israël. Il ne faut pas que ces deux secteurs tombent aux mains d'étrangers et que nous dépendions des Palestiniens. Il est temps que les constructeurs israéliens bâtissent et que les agriculteurs israéliens récoltent. Dans l'immédiat, un détachement de l'armée israélienne participe aux travaux des champs des colonies de la bande de Gaza. Bouclage et ratissage se montrent temporairement efficaces en limitant les attentats anti-israéliens. On doit noter quand même le 16 avril 1993, le premier attentat à la voiture suicide contre un autocar militaire israélien en Cisjordanie, tuant 2 Palestiniens et blessant 8 Israéliens. On en arrive néanmoins à la reprise des négociations. Les consultations interarabes de la fin mars n'avaient pas abouti à une décision positive de reprise des négociations devant l'exigence palestinienne d'application de la résolution 1799. Les médiations, en particulier européennes, n'ont rien donné. Les représentants palestiniens expliquent qu'ils doivent rendre compte à leur base. L'ONP se trouve dans une impasse. S'ils refusent la reprise, elle renforce le Hamas et les opposants de gauche au processus de paix. Si elle accepte sans contrepartie, elle continuera de perdre du terrain devant les islamistes. On joue la carte de Moubarak, qui se rend aux États-Unis au début d'avril 1993. Le président égyptien a ses propres préoccupations. Depuis le début de l'année, des groupes islamistes radicaux égyptiens se sont pris à l'industrie touristique, accroissant la dépendance envers l'aide extérieure. L'Égypte a besoin du maintien de l'aide économique et militaire américaine, plus de 2 milliards de dollars par an, pour appliquer son plan mesuré de libéralisation de l'économie. Le régime de Moubarak plaint que l'Égypte a les mêmes ennemis communs que les États-Unis, le Soudan et l'Iran, centre de la subversion islamiste. Le 6 avril, Moubarak se fait l'avocat des demandes palestiniennes auprès de Clinton. Ses interlocuteurs lui répondent que les États-Unis en ont assez fait sur le dossier des déportés palestiniens et que la balle est maintenant clairement dans le camp des Palestiniens. Dans sa conférence de presse, le président égyptien marque qu'il insistera auprès d'Arafat pour la reprise des négociations. Le monde ne s'intéressera pas toujours aux problèmes palestiniens. Une telle attitude négative découragera les Américains, d'autant plus que la Syrie est plus désireuse que jamais de reprendre le processus de paix. Christopher laisse entendre que des choses positives pourraient se produire si les Palestiniens revenaient sur leur décision de boycott des négociations. La presse palestinienne fustige la déloyauté de l'Égypte qui vend les intérêts palestiniens aux Américains. Là, vous avez Hanan Ashrawi et Faisal Husseini sur la photo. Ce qui a été conçu comme une manœuvre destinée à affaiblir le contrôle d'Arafat sur la délégation palestinienne, l'intégration de Faisal al-Husseini aux négociations est présentée comme un geste en faveur des Palestiniens. Pour le bénéfice de la cause, on le domicilie à l'extérieur de Jérusalem-Est. Arafat et Husseini sont reçus par Moubarak au Caire le 13 avril. Le lendemain, alors que 3 soldats israéliens sont tués dans un attentat de Hezbollah au Liban Sud, Moubarak tient un sommet à Ismailia avec Rabin. Publiquement, le premier ministre israélien reconnaît la validité des résolutions 242 et 338 pour les territoires occupés, tout en affirmant qu'il n'est pas question de revenir aux frontières d'avant 1967. Peres avait au préalable exploré avec l'ambassadeur égyptien l'idée d'un retrait israélien de Jéricho en même temps que celui de la bande de Gaza. Les Égyptiens présentent une carte couvrant tout le district de Jéricho jusqu'au pont Allenby et suggèrent un corridor entre Gaza et Hébron. Rabin rejette immédiatement cette perspective. La mention de Jéricho est purement symbolique pour montrer que le retrait de Gaza annonce ceux à venir de Cisjordanie. Il est hors de question d'autoriser les Palestiniens d'avoir un libre accès à la Cisjordanie et à l'Égypte. Cela constituerait un risque majeur pour la sécurité d'Israël, qui doit pouvoir contrôler les mouvements de personnes et de matériel militaire. De retour en Israël, Rabin s'en prend à Peres, qui se défend en affirmant que le projet d'aller jusqu'au pont Allenby est une initiative purement égyptienne. De son côté, Christopher invite Faisal al-Husseini à se rendre à Washington préparer la reprise des négociations. Arafat le lui interdit et le convoque à Tunis. Le message est clairement adressé. Il n'est pas question que le leader des Palestiniens de Jérusalem puisse lui faire la moindre concurrence. Parallèlement, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, encore en charge du processus de paix, est envoyé. Secrètement à Damas, portant une lettre du président Clinton. Les Américains demandent à Hafez al-Assad de préciser sa conception de la paix, de s'engager personnellement dans la diplomatie publique à l'image de Sadat, et troisièmement d'ouvrir un canal secret de communication qui pourrait améliorer les communications avec Israël de meilleure façon que le format des discussions de Washington l'autorise. À son habitude, le président syrien temporise. On va peut-être arrêter là. Hein. Vous êtes fatigué. Et c'est en pleine angoisse, en plein suspense. Mais je vous promets, la semaine prochaine, il y a des chances qu'on arrive jusqu'à Oslo.